Popol, le podcast politique
qui donne la parole aux femmes. Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be her skies, whether loud be her tears or whether soft be her tears, more and more do I realize. Bonsoir tout le monde, merci, merci d'être là à nouveau, donc sans plus attendre, je vais vous dire de quoi on va parler ce soir. Sans grande surprise, on va parler des élections législatives, je pense que ça vous a pas tout à fait échappé, enfin j'espère en tout cas. Et les élections à venir, donc 12 et 19 juin, on élue les représentants et représentantes de la nation, donc en gros celles et ceux qui vont nous représenter pendant 5 ans à l'Assemblée nationale, et qui vont ou non faire de la merde, on verra, mais on espère pas trop quand même. Donc l'enjeu est assez important, mais c'est une élection assez intéressante parce que, encore une fois, là on n'est pas à l'abri d'une cohabitation, ce qui pourrait être vraiment vraiment intéressant. Enfin, c'est ce que raconte la NUPES, mais bon, sous réserve que ça se confirme, mais ils sont très enthousiastes, hein, ouais. Mais on verra. Donc Mélenchon Premier ministre, j'ai vraiment envie de voir ça, perso. Je pense que ce serait assez drôle. Et ce serait déjà pas mal de bordel. Mais en plus, ce sera encore plus le bordel parce que les partis de gauche qui se sont unis exceptionnellement pour cette élection risquent de aussi se foutre sur la gueule à l'Assemblée nationale. Donc je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Voilà un peu pour planter le décor. Et donc ce soir, on avait aussi envie de traiter de la question de la représentation, de la représentativité en politique et des enjeux aussi, notamment... par rapport à la parité. Et autre chose aussi qui nous semblait très important d'aborder ce soir, c'est comment on change vraiment les choses et comment on porte en fait les combats, les luttes d'aujourd'hui dans la sphère politique. Et pour répondre à ces questions et discuter avec moi ce soir, j'ai le plaisir donc de recevoir Dolores Bacquella.
Bonsoir.
Bonsoir Dolores.
Bonsoir Léa.
Alors Dolores Bacquella, pour la petite histoire, c'était la première intervenante de Popol. Et ça,
et oui.
Franchement, je pense qu'il faut encore l'applaudir pour ça.
On m'avait invité. Hein.
Ouais, j'avoue, il y en a eu quelques-unes depuis, mais t'as bien essuyé les plâtres.
Ouais, ouais.
J'avais c'était assez cool.
J'avais le Covid.
Et elle avait le Covid en plus. C'était en novembre 2020, t'étais où ?
J'étais
fond du trou, ma
ouais,
peau.
Ouais, j'étais au fond.
Mais bon, c'était quand même un superbe épisode que je vous invite à réécouter. Donc Dolores, est-ce que tu pourrais te présenter pour nous ce soir, s'il te plaît ?
Oui, donc bonsoir, je suis donc journaliste, j'ai cofondé une plateforme qui s'appelle L'Afro et un festival qui s'appelle Fresh Woman, et j'ai eu le privilège de travailler 4 mois sur la campagne de Yannick Jadot, donc on pourrait parler...
on voilà. L'embrasse, hein, bien sûr.
Voilà, on l'embrasse, on rappelle le score... 4,6%, derrière Éric Zemmour, 7%. Donc voilà, et donc j'ai un intérêt particulier sur les questions de société et de culture. Et effectivement, la question de la politique et de la représentativité sont des sujets qui me passionnent à défaut de me désespérer, puisque sans anticiper et spoiler, il me semble qu'il y a quand même un très très gros enjeu, notamment à gauche. Et qu'on va voir aussi ce qui va se passer après les élections, parce qu'il ne s'agit pas de s'arrêter au 12 et au 19, mais ce qui va se passer après, on n'est pas encore au jour 1.
Non, c'est clair, je pense qu'on a encore du chemin à parcourir. Merci beaucoup Dolores.
De rien.
Et aussi avec nous ce soir, Réjeanne Sénac. Bonsoir Réjeanne.
Bonsoir.
Ça va ?
Bonsoir.
Je dois me présenter.
Qui êtes-vous ?
Alors moi, je suis chercheuse, directrice de recherche CNRS, affectée à Sciences Po, et j'enseigne à Sciences Po.
Qu'est-ce que tu enseignes précisément ?
Alors moi, j'enseigne nos dilemmes et nos contradictions autour de l'articulation entre nos principes républicains de liberté, d'égalité, de fraternité.
Ouais, vaste sujet quand même. Et tu traites notamment des questions d'universalisme républicain, tout ça, tout ça.
Oui, j'écorche pas mal les mythologies républicaines. Je suis en théorie politique et je vois des étudiants dans la salle, des anciens étudiants. Et donc, voilà, je travaille en particulier sur, dans le programme genre aussi, qui est le programme genre de Sciences Po, Présage.
Ok, merci beaucoup. Merci d'être là ce soir. Et enfin, Alice Coffin, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être là aussi. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît, Alice ?
Oui, je suis. D'abord, oui, je vais dire, mais parce que je suis très émue. C'était là, donc, le soir des résultats de le premier tour de la
mais
primaire.
Mais oui, c'est vrai.
Écolo. Et pour moi, ça reste la date où, jusque-là, c'était bien. C'est après que les ennuis ont vraiment commencé. Puisque jusque-là, on pouvait penser précisément que Sandrine Rousseau et tout celle qu'elle a menée aussi autour pouvaient avoir cette plateforme exceptionnelle qu'aurait été une campagne présidentielle et que malheureusement. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ce qui a eu des conséquences, je pense, sur l'ensemble du champ politique et de cette campagne. Voilà. Donc, ça m'émeut un peu d'être là. Et donc, oui, moi, je suis Alice Coffin. Je suis élue au Conseil de Paris et plus précisément aussi dans le 12e arrondissement où je suis en charge de la lutte contre les discriminations, le patriarcat, même si on ne m'a pas laissé appeler cette adjointure comme ça, mais j'avais proposé. C'est presque passé. Mais voilà. Et puis, j'ai été longtemps journaliste. Et puis j'écris aussi voilà, sur différents sujets. Voilà.
Le génie lesbien.
Oh, merci.
Notamment.
Ah, je ne sais pas.
Ah, j'en profite du coup. J'en profite du coup pour vous glisser deux infos fondamentales. Un, il reste des places devant et franchement, c'est trop chelou de voir les chaises vides. Donc s'il vous plaît, venez. N'ayez pas peur. Hein, ça. On va pas vous manger, c'est sûr. Et deuxième info, Alice, Réjeanne et moi vous proposons une petite séance dédicace des livres et notamment du génie lesbien dont on parle actuellement à l'instant. Donc si vous voulez, à la fin de l'enregistrement, on pourra vous pourrez vous faire dédicacer vos génies lesbiens. Voilà. Très cool. Et ben merci d'être là à toutes les trois. Comme on vous l'a dit, bon, on va commencer avec une question qui fâche parce que sinon c'est quand même pas drôle. Donc NUPES, c'est quand même beau quoi cette alliance. C'est canon. Moi j'étais trop contente. J'étais là, mais chambé. Et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à me dire mais c'est pas mal, mais je sais pas, il y a un truc qui va pas. Et je crois que c'est la place des personnes sous-représentées en politique, le décalage encore sociologique en fait entre la population, nos représentantes et nos représentants. Et moi, je m'attendais beaucoup à ce que cette alliance, en fait, permette effectivement de renverser la table, de bousculer les codes, de permettre aussi à de nouveaux profils d'émerger. Et j'étais très attentive à ça. Et très rapidement, je me suis dit, ben, en fait, c'est toujours les mêmes qui sont écartés. Et j'ai regardé de manière très, très précise. J'ai suivi, j'ai fait des appels à témoignages aussi sur les réseaux sociaux. Et en fait, il y a énormément de jeunes femmes racisées qui ont été écartées au profit de vieux mecs blancs qui traînent là en politique, qui ont un CV long comme le bras. Et c'est un peu pénible. C'est étonnant, non ? Est-ce que toi, ça te surprend, Dolores ?
Bah non, pas du tout. Pas du tout. Malheureusement, effectivement, notamment Mariam Cissé et d'autres ont récemment, justement, expliqué la problématique que se pose. Bon, déjà, la question de l'alliance était un problème en soi, puisque il fallait justement voilà, enfin donc il y a eu, vous l'avez sans doute suivi, toutes les discussions, les négociations pour en fait savoir qui pouvait se permettre de se présenter plutôt qu'une autre personne, etc. Donc ça effectivement ça a été un sujet, mais on va dire que même avant même de parler de l'union, on sait que ce sont déjà des problèmes qui ont, on en parlait juste avant, mais qui ont cours déjà dans les partis. C'est-à-dire qu'au finish, on se retrouve avec des personnes qui ont dû se retirer et peut-être à des moments dire « bon bah voilà, on a dû se retirer pour faire justement que pour que cette alliance puisse émerger ». Donc ça a été quand même un sacré tour de force. Mais effectivement, on se rend compte, et notamment à gauche, qu'il y a un vrai sujet, mais qui est déjà inhérent au parti, de cette question de la représentativité, qui, il faut bien quand même le souligner, le rappeler, est d'abord poussé quand même par les militantes et militants. Hein, c'est quand même eux qui font le travail de dire qu'il y a un souci, que les partis sont quand même dans l'entre-soi, qu'il n'y a pas de diversité, qu'elle soit donc la question de diversité de genre, mais aussi des diversités de profils, et même, on va dire, de profils sociaux, culturels. C'est-à-dire que, OK, très bien, pour avoir des personnes, et on le voit chez Ensemble, qu'on a des personnes qui sont parfois comme on dit, issus de l'immigration. Alors, les termes sont difficiles à utiliser, mais on va dire ça comme ça. Mais on sait aussi que, pour une personne avocate, combien de personnes qui sont issues pleinement de la société civile, qui ont travaillé, qui ne sont pas forcément des cadres, etc., etc. Et quand on met tout ça, qu'on entrecroise tout ça, quand on fait une analyse intersectionnelle de ce qui se passe, on voit effectivement que ce sont souvent les mêmes personnes qui sont obligées soit de quitter, soit qui se retrouvent dans des circos où en fait elles se retrouvent parachutées et où donc du coup ce truc de dire on fait une nouvelle union pour essayer justement de dépasser ce que les anciens partis ont l'habitude de faire, bah ça retombe notamment sur ces personnes à qui en fait qu'on jette au feu en fait dans des circonscriptions qu'elles ne connaissent pas forcément, devant parfois des candidats en face qui sont implantés, etc. Donc oui, ce sont toujours les mêmes personnes qui donnent en plus de leur personne, grâce auxquelles en fait ces personnes mêmes là ont été élues et qui se retrouvent à devoir céder la place. Ne parlons pas tout de suite de Taha Bouaf parce que en termes de questions qui fâchent, voilà. Mais on voit qu'il y a un problème, mais qui, moi, je crois, est un problème inhérent en fait aux partis en eux-mêmes. Quoi. Il suffit de regarder certaines justement assemblées, certaines réunions, pour bien se rendre compte de qui se retrouve et qui est plus à même de prendre le pouvoir.
Ouais. Qui décide en fait ? Qui décide ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ils avaient fait une espèce de photomontage pour l'union de la NUPES. Il y avait les quatre têtes de parti qui représentaient les différentes sensibilités politiques dans le cadre de cette union. Bah, forcément, c'était quatre mecs. Enfin, étonnant, hein ? Bon, bref. Mais ouais, effectivement, sur cet aspect-là, justement, des partis politiques, toi, Alice, qui a vécu ça de très près, Dolores mettait en avant que c'était un problème structurel en fait sur l'offre politique en fait qui est proposée par les partis, parce que les partis ne sont finalement que les intermédiaires entre le peuple et les institutions, et en fait c'est aussi aux partis en fait de se bouger pour faire en sorte qu'il y ait de nouveaux profils qui émergent. Mais effectivement, comme Dolores l'a très bien dit, souvent ce sont toujours les mêmes en fait qui sont sacrifiés au profit de l'union. Et j'insiste beaucoup là-dessus. En plus, on me fait chier régulièrement, donc je vais le dire. Ça sert à rien de venir m'emmerder sur Twitter pour me dire que je suis en train de flinguer la NUPES, que si jamais il y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, c'est de ma faute. J'assume parfaitement. Et vous me donnez beaucoup, beaucoup d'importance en disant ça. Ça m'étonne. Mais voilà, il y a des choses qu'il faut dénoncer. Et je pense que prendre du recul, parce qu'en fait, les meufs dont je vous parlais tout à l'heure, qui m'ont écrit, etc., elles peuvent rien dire. Parce que le premier truc qu'on va leur dire, c'est « Attends, si tu l'ouvres, franchement, on est en campagne, là, tu déconnes, tu vas tout flinguer. » Donc, il y a aussi ça qu'il faut avoir à l'esprit. Mais donc, du coup, c'est un problème structurel, vraiment. Comment on change ça aussi ?
Alors, ça peut être un problème... Ça fait longtemps, en fait, que les partis politiques sont désignés comme un problème structurel. Je pense que vous pouvez... Ce ne sera pas proposé à la dédicace tout à l'heure, mais relire... c'est très court, c'est un texte de Simone Veil, Weil, qui s'appelle « Note sur la suppression générale des partis politiques » et qui explique en fait exactement ça, hein. C'est très bref sur le problème structurel qui fait que de toute façon un parti politique dans son fonctionnement est vraiment, je suis très bien placée pour le savoir, et une machine à assécher en fait, à assécher les énergies militantes qu'il peut y avoir à l'extérieur. Il faut noter deux points. Ça arrive que ça ne soit pas le cas. Moi, par exemple, on est venu me chercher pour être sur des listes municipales, mais vraiment par un concours de circonstances, d'amitié, et quand j'avais 40 ans. Enfin, je veux dire, donc il y a aussi plein de gens, plein de parcours où bon, ça se présente là, à ce moment-là, mais ça pourrait se présenter plus tôt et ça pourrait se présenter plus généralement. Ce dont on parle là pour la NUPES, c'est très particulier parce que cette union-là qui se fait en 13 jours, elle arrive après un processus d'investiture qui a déjà eu cours dans l'ensemble des partis qui vont être appelés, vous vous en souvenez, pendant cette courte période de temps à se voir jour et nuit. Ça, on peut dire que là où ça aurait pu résoudre le problème, c'est que moi, ça m'a paru inconcevable qu'en fait, qu'à cette table-là, alors qu'étaient représentés des partis qui, franchement, n'avaient pas fait beaucoup de voix, qu'à cette table-là ne figurent pas aussi des représentants de collectifs, en fait, présentant des personnes aux élections, d'alliances citoyennes, d'un ensemble, en fait, de collectifs qui se sont montés ces dernières années, voire plus récemment, et qui avaient, en fait, en piste des gens qui avaient été éventuellement trouvé une investiture dans certains des partis représentés à la NUPES ou déjà fait tout un travail sur le terrain. Alors, il y en a quelques-unes hein, qui sont passées, mais ça aurait été bien plus efficace et extrêmement porteur, je trouve, en termes de message, de dire, bah oui, on aura le PS, le PCF, LV, les Insoumis, et puis aussi les représentants de ces collectifs-là qui viendront à la table des négociations pour aussi essayer d'avoir leur place, et on leur réserve aussi ce qu'on estime être leur voix. Enfin, après, c'est des négos. Donc ça, ça aurait été possible autrement. Mais par ailleurs, de toute façon, quand on arrive là, il y a une grosse part du combat qui est déjà perdue, de toute façon. Et si moi, je vois comment ça s'est passé, ce que j'ai vu, c'est comment ça s'est passé chez les Verts, et je dis, voilà, enfin bon, je rigolais sur Jadot, mais parce que c'est super compliqué, dans le génie lesbien, c'est pareil, je parle du journalisme, et je démonte beaucoup 20 minutes, mais c'est parce que j'étais à 20 minutes, mais c'était pas mieux ailleurs, quoi. Et là, vraiment, donc ça va amener à dire des trucs pas sympas chez les Verts, mais en fait, je pense que c'est plutôt beaucoup, beaucoup mieux qu'ailleurs. C'est ça qui est terrifiant, parce que vu comme c'est. Mais alors moi, ce que j'ai vécu, je ne connaissais pas en fait comment ça se passait sur les investitures. Je pense que j'ai rarement vu, mais vraiment, je passe mes mots, rarement vu dans ma vie, un dispositif et des processus, donc ce qu'on s'appelle vraiment pour investir les gens, hein, de comment on choisit, quelles personnes vont être candidates. Et j'ai rarement vu quelque chose d'aussi violent. C'est une gabegie de temps, c'est vraiment aussi chronophage et stupide en fait dans la mise en place, et je le dis aussi avec reconnaissance pour celles et ceux qui s'y prêtent, mais ça n'est pas possible en fait de faire comme ça, c'est-à-dire que vraiment c'est, vous voyez comment ça se passe, enfin, franchement les investitures, alors par exemple chez les Verts, ça va se passer à la fois dans un mélange de forces de ce qui représente des motions dans un parti et puis des AG locales, et tout cela étant soumis à des règles qui peuvent complètement changer, non mais vraiment en plus, qui ne s'appliquent pas toujours, à des choses pas très représentatives, à des coups un peu, bon voilà, mais encore une fois c'est pire dans d'autres parties, hein, vraiment j'insiste là-dessus, et néanmoins ce qui est important de noter, c'est qu'à la fin de toute façon, ça n'est pas fait pour pouvoir encourager, stimuler et inciter notamment des personnalités militantes ou autres qui pourraient aller sur le devant de la scène. Donc le seul moyen, j'ai quand même, je terminerai par là parce qu'il faut un peu d'espoir, ça peut se faire. Moi, j'ai un exemple où ça a marché. On a tenu jusqu'au bout et on est en train, j'en vois dans la salle d'ailleurs des représentants, mais de faire la campagne de Nadera Beltrech dans l'Essonne, dans la 9e circonscription de l'Essonne, qui est de longue date, que les partis auraient dû repérer depuis belle lurette, parce que qui milite dans l'antiracisme depuis 20 ans. Donc je veux dire, c'est quelqu'un, et sur d'autres sujets féministes, LGBT, etc. Et vraiment, qui aurait pu être là avant, mais que, en fait, il a fallu aussi aller chercher, inciter, accompagner, et ça a été un parcours, enfin, ça tient presque du miracle, quoi, qu'on ait réussi à passer comme ça. Et encore, c'est toujours au prix, c'est toujours comme ça, hein, c'est toujours au prix qu'on se serre un peu l'écoute, qu'on se sacrifie soi-même, qu'on se fasse passer les unes les autres. Et là, ça marche, si c'est comme ça. Mais c'est l'unique moyen. Sinon, c'est vraiment une machine à broyer et à sécher. Et alors, moi, je n'ai aucune garantie, en plus, même, enfin, plutôt le contraire, que ça soit efficace. C'est-à-dire qu'on pourrait envisager, mais tellement d'autres moyens de désigner les candidatures, ça ne me paraît pas très, très compliqué de regarder l'Assemblée nationale, de regarder les problèmes de notre pays et d'en conclure, si on est un parti de gauche, écologiste, quelles seraient les candidatures intéressantes. C'est pas super dur et c'est pas celle qu'on a maintenant, c'est sûr.
C'est clair. Mais d'ailleurs, Nadera, elle était investie dans le 20e au début.
Elle était sur la circo de Simonet. Où, Daniel Simonet, absolument. À qui
Samia et la rage, et du coup il y a eu tout,
c'est
le
une circo
un peu compliqué.
Bon, ouais, donc,
finalement, mais ça se passe bien dans les Essonne, par ailleurs, ouais. Parce que c'est vrai, quand tu disais, moi je comprends aussi les trucs de se dire faut pas, parce que par ailleurs sur la NUPES, ça se, enfin en tout cas nous dans la 9e circo des Essonne, ça se passe très bien, et à la fois il y a un tout d'espoir indéniable, hein, sur les parties des gens, mais vraiment, mais qui tout le temps, mais enfin quoi, enfin. Et donc évidemment, par ailleurs, c'est à noter, et vous pouvez relire différents textes qui avaient été publiés, Nadera en a signé, mais j'en ai signé aussi, à cette occasion-là, de dire ouais, ok, mais alors à quel prix, et donc évidemment c'est ça, c'est et vraiment ça aurait pu être autrement en plus, je pense.
Ouais, c'est clair. Réjeanne, toi qui observes la vie politique depuis quelques années, la vie politique française en tout cas, tu as bien évidemment, j'imagine, relevé les mêmes travers, les mêmes problèmes. Est-ce que tu considères qu'il y a une certaine évolution, positive ou négative d'ailleurs, sur la représentativité ? Et parlons aussi de la place des femmes, par exemple, en politique, en France.
Alors, les échanges que vous avez eus jusqu'à présent montrent bien que ça pose la question de c'est quoi une démocratie représentative ? C'est quoi une démocratie et c'est quoi être représentatif et de représentatif de quoi ? Dans ce que dit Alice, on entend à la fois l'idée d'être représentatif de l'idéologie du parti politique ou des idées qu'il porte au-delà même du parti. Dans ce qu'a dit à la fois Alice et Dolores, il y a l'idée aussi de se poser la question de la représentativité, la représentativité par rapport à la morphologie de la population. Donc, moi, je trouve que c'est un moment qui est intéressant parce que c'est un moment... Alors, on dit qu'on est en crise depuis très longtemps. Hein, on est en crise globale, je pense, depuis qu'on est tous nés. Hein, donc, voilà. Donc, ça commence à faire. Mais on peut se dire que là, il y a un phénomène du fait aussi de ce qui peut apparaître comme une forme de crise de la représentation, avec un taux d'abstention très élevé, un taux aussi de vote pour l'extrême droite qui est quand même très, très fort, plus que jamais, quand on regarde l'élection présidentielle qu'on vient de passer, en particulier, enfin, toutes les élections depuis quand même quelques temps. Donc, moi, je trouve que la question que ça pose, c'est... de quelle démocratie on veut, qu'est-ce qui pourrait mobiliser au-delà d'une reproduction en termes de ressources humaines, parce qu'en fait les partis politiques c'est à la fois des espaces qui sont censés porter et défendre une certaine conception du monde, de ce qui est juste, mais dans ce que dit Alice on voit bien que ce versant-là qui devrait être le versant central, il est complètement étouffé et anesthésié par le versant de répartition des postes, hein. Donc une conception de ressources humaines, hein, de partage du pouvoir, des mandats, des fonctions électives, avec d'ailleurs un tout petit groupe, hein, de militants. Et dans certains partis, il y a très peu de différence entre le nombre de militants et le nombre de candidats. Donc on est dans quelque chose où on assèche au sens où on perd le sens qui est celui de défendre une certaine conception du monde avec une cartographie qui est une cartographie de divergence, hein, et ne pas oublier que la politique c'est avant tout de la gong, c'est avant tout du conflit sur ce qu'on considère comme juste. Donc là, on en est si on est dans une lecture assez premier degré des chiffres, et je vous avoue que ça fait quelques années, donc c'est un euphémisme que je travaille sur ce sujet. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a quand même 20 ans, j'étais secrétaire générale de l'Observatoire de la parité, au moment où les lois dites sur la parité ont été mises en œuvre, et je vous avoue que j'ai une certaine fatigue, pas due qu'à la Covid ou à mon âge, mais aussi au fait que le diagnostic de se dire qu'il a fallu voter des lois, réformer la Constitution, voter des lois pour contraindre à une présence quantitative des femmes. Parce que sinon, on avait la même proportion de femmes qu'à la première assemblée élue, suite au droit de vote des femmes. Et que là, on en est encore à se compter, à se réjouir qu'il y ait une femme première ministre sans se poser la question de ce qu'elle porte idéologiquement, qu'il y ait une destruction de tout ce qui pourrait être porté vers l'égalité. Et quand on regarde aujourd'hui en termes de représentativité des candidatures, oui, il y a des progrès en termes sexués en tout cas. Mais qu'est-ce que ça dit en termes de portage idéologique ? On se rend compte que les partis, en particulier d'extrême droite, mais ça c'est pas nouveau, ils peuvent pas se permettre de perdre du financement sur la première fraction de la dotation financière publique, qui est sur le nombre de voix obtenues au premier tour des législatives. Et donc, ils sont paritaires au sens quantitatif, ils ont autant de femmes que d'hommes, ils ont même souvent un peu plus de femmes que d'hommes. Est-ce que ça veut pour autant dire que c'est un progrès ou qu'ils portent l'égalité ? Absolument pas. Hein, ces femmes-là, elles portent une vision traditionnelle, complémentariste, raciste, sexiste. Voilà. Donc, il y a du quantitatif. Le fait que les femmes aient été exclues de la représentation dit des choses de leur dépolitisation, dit des choses du sexisme structurel. Mais le fait de les intégrer en tant que femmes dit aussi une reproduction du sexisme et de la dépolitisation. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de ce qu'elles porte idéologiquement, on dit « Ah ben, super, il y a une femme première ministre. » Non mais, qu'est-ce qu'elle porte ? Voilà. Donc en fait, moi, ce qui contribue à ma fatigue, je pense, c'est qu'on n'arrive pas à rentrer dans du politique. C'est-à-dire qu'on est toujours, pour ce que j'appelle les non-frères, ceux qui ont été exclus du contrat social républicain, dans quelque chose qui ressemble toujours à de la dépolitisation. C'est-à-dire qu'on occulte les rapports de domination, on occulte la manière dont ils sont autonomes et acteurs et actrices d'une idéologie d'émancipation ou au contraire de reproduction des dominations. Et on est dans des logiques ensuite où on va personnaliser. C'est-à-dire qu'on va la mettre dans une circo, l'enlever, trouver que c'est mieux de tokeniser en accumulant tel type de critères d'identification ou au contraire en l'enlevant. Enfin, je veux dire. Et c'est quand qu'on parle politique, c'est quoi faire démocratie réellement ? Comment on arrive à porter de l'intérêt général ? Est-ce qu'on porte des idéologies concurrentes ? Voilà, donc je pense que là où on peut dire qu'il y a une avancée, c'est que je pense qu'on est là aujourd'hui, on n'est pas tout seul à poser ces questions-là. Et avec tous les effets pervers d'une alliance qui est une alliance de circonstances, NUPS. Parce que électoralement, sinon c'était la mort d'un certain nombre de partis, et financièrement. Hein. Soyons quand même assez réalistes. Mais la ruse, il faut qu'elle marche dans les mauvais sens et dans les bons sens. On parle souvent de ruse néolibérale, hein, on connaît ça, du féministe washing, du greenwashing, voilà. Il faut espérer que ça porte une ruse aussi positive, au sens où même si c'est pour de mauvaises raisons qu'ils ont fait cette alliance, pour des raisons assez peu idéologiques en vrai, ben ça permet de réfléchir sur ce qu'il y a en commun dans la gauche aujourd'hui ou pas. Qu'est-ce qu'on peut porter en termes de démocratie représentative ? Et le lien, juste, j'en finirai là-dessus. Moi, j'ai fait une recherche récemment sur, justement, les mobilisations contemporaines contre les injustices, de l'habitante de ZAD à la blogueuse afro-féministe, en passant par les antispécistes, les écologistes, enfin voilà. Bon. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir comment il y a une défiance très importante vis-à-vis de la démocratie représentative, et que donc, en effet, la difficulté, c'est comment est-ce qu'on agit à la marge, par volution, hein, comme dit Alain Damasio. Donc on va faire des communautés imaginées, on va faire de la permaculture, voilà, au mieux du municipalisme libertaire, mais plutôt des choses de cohérence à la marge, hors du politique classique et partisan. Est-ce que ça va faire tomber le système, ou est-ce qu'il faut, et ça c'est une discussion qu'on peut avoir avec Alice, ou est-ce qu'il faut rentrer dans le système, une vieille discussion de gauche, hein, pour se l'approprier, le faire exploser de l'intérieur, voilà. Donc je pense que le moment des élections, c'est un moment où on peut discuter de ça aussi.
Tout à fait. Dolores, je te vois super OP pour intervenir.
Oui, bah juste pour rebondir brièvement sur, en gros là on parle aussi de la question de l'exemplarité. Et c'est-à-dire de ce moment qui aurait pu être exemplaire sur plein d'aspects. Bon, et que face à la NUPES, la NUPS, peu importe comment on l'appelle, hein, y a quand même aussi des forces, notamment les forces d'extrême droite, le parti, enfin en tout cas majoritaire, en tout cas le parti présidentiel, et cette fraction-là créée ensemble. Donc toutes ces forces, je pense aussi, agissent sur... ce que Alice et Réjeanne vous étiez en train de dire, c'est-à-dire aussi sur ce que, en fait, en face, l'opposition essaye de montrer, de construire, en fait, avec ses failles, et notamment cette question, justement, de comment intégrer aussi de manière très, très là, très maintenant, très tout de suite, ce que le peuple, en fait, lui dit et veut. Et on voit bien, moi, par exemple, il y a un truc personnellement qui me choque énormément, c'est quand un parti, justement, qui se met en action pour et dit c'est un tour de force, c'est génial, on a réussi à faire l'union de la gauche, et qui présente des candidats de manière tout aussi népote que des partis en face traditionnels. Pour être très précise, quand on sait que Jean-Luc Mélenchon, en tout cas son parti, investit d'un côté son épouse, enfin en tout cas son épouse, en tout cas celle dont on sait qu'il partage plus ou moins sa vie. Pardon ?
Vas-y, c'est incroyable.
Non mais voilà, disons les choses. Ici son gendre, ici, enfin il y a un moment, on est où ? On parle d'une nouvelle union, etc. J'espère qu'on ne perçoit pas ce que je pense ou pas, mais juste, il faut, et vous parliez du bien et du mal, en tout cas de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Il y a un moment, de ce qui est juste, c'est aussi ça la politique, il faut aussi être capable de regarder. Et du coup, peut-être que les personnes vont estimer que c'est un micro-fait, en disant oui, mais quand même, cette union, c'est important, c'est porteur d'espoir, en face, ce sont des tarés, des salauds, des racistes, etc. Et donc, au nom de ça, en face, on doit accepter que cette opposition et cet espoir soient déjà, pour moi, entachés par des actions, en tout cas des mouvements, qui, pour moi, ne sont pas du tout signe qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle ère politique. Et en fait, ça, de ne pas le noter, de ne pas avoir d'espace de discussion pour pouvoir simplement le dire, le noter, et dire ça, il faut quand même le marquer, parce qu'il va falloir quand même qu'on discute de comment c'est possible que ce soit encore ça en 2022, pour moi, il y a déjà un problème. Alice, tu disais à très juste titre qu'il aurait fallu qu'à la table des négociations, il y ait des militants, qu'il y ait justement des rassemblements citoyens de personnes, etc. Le NPA. Le NPA, qui n'est pas un parti majoritaire. On a vu comment Philippe Poutou a complètement joué le jeu. Et que, à la fois, il a fini par dire, bien, en fait, moi, je n'ai pas eu l'heure d'être invité aux grandes réjouissances de la gauche, pour finir par dire, mais je vais quand même soutenir cela. Donc, on voit, pour en revenir aussi à ce que tu disais, qu'on demande toujours aussi un peu aux mêmes, de supporter des efforts, justement, sur cette question de la démocratie représentative et de l'espoir que ça porte, et aussi des discussions que ça doit générer légitimement entre citoyens, entre militants et à tous les niveaux. Mais ce n'est pas normal, ça ne reste pas normal dans un moment où on est la risée du monde, et notamment du monde qui se dit libre et occidental, d'avoir une Marine Le Pen qui émarge à ce qu'elle émarge en termes de pourcentage pour des raisons qui sont aussi des questions aussi, voilà, moi je pense qu'il y a aussi une, et peut-être qu'on en parlera, une très grande responsabilité des médias, une très très grande responsabilité notamment des médias auxquels on a accès de manière gratuite ou en tous les cas sans se donner l'impression, bon, quand on paye notre devance, mais en tout cas des chaînes notamment qui déversent de l'info en permanence et tous les médias, parce qu'on le sait, je suis journaliste, Alice l'a été et Réjeanne, je pense que vous observez ça, on sait que ça va plus faire cliquer de parler de la énième saillie d'Éric Zemmour que d'aller parler dans le fond de ce que le programme écologiste proposait qui, même s'il y a eu 4,6%, pouvait être intéressant pour notre avenir. Donc ça, je pense, et ça recoupe ce que tu disais, Réjeanne, que en fait on parle pas de politique, et même dans ce moment d'espoir où en fait on devrait tout écraser et ne pas regarder, il y a des choses qui pour moi sont signifiantes dans ce moment de dépolitisation. Et je pense que la gauche, qui devrait justement être un phare, parce qu'on a vu qu'il y a eu quand même des gens qui étaient très, très mobilisés, et notamment dans les zones où, justement, il n'y a pas les personnes qui pourraient les représenter. C'est quand même... Ça, c'est pas juste un aveu qu'à un moment, on est encore dans toujours les mêmes dynamiques. Et donc, ces espaces-là et ces discussions-là n'existent pas. Je trouve ça très dommageable. Et personnellement, même si on espère, on le voit, qu'il y a des projections qui sont plutôt positives, en tout cas pour des partis ou des rassemblements de partis qui ne seraient pas, et c'est à minima, pas racistes, en tout cas pas féministes, en tout cas pas en surface, pas dans le programme, etc. Je pense qu'on est aussi dans un moment où il va falloir vraiment arrêter de retarder les vraies questions, pas faire en sorte que ce soit toujours les mêmes personnes qui les posent, qui y répondent, et qui après se mettent de côté justement pour que, en fait, on avance vraiment sur ces questions. Parce que Réjeanne parlait de fatigue et j'en finirai là. Mais imaginez comment on se sent quand on sait et on voit qu'on sera toujours la quatrième, cinquième, millième roue du carrosse. Et que nos vies, elles continuent d'être explosées. Parce que, en fait, il y a quatre personnes qui ont décidé de se réunir, parce qu'en fait, ils veulent garder leur poste, parce que leur parti, il faut qu'il continue d'exister, parce que dans nos espaces, là où nous, on vit, les gens qui vivent plus loin, eux, ils se disent « Ah bah oui, mais c'est quand même important, et l'écologie, c'est quand même important que le socialisme universaliste, etc. » Et pendant ce temps-là, il y a des vies qui sont écrabouillées au nom de ça. Et ça, c'est pas normal, ça continue. Et donc, oui, cette question des espaces politiques qui doivent émerger enfin, c'est urgent. Et pour moi, la NUPES, la NUPS, ce que vous voulez, ne répond pas à cette exigence-là, ne serait-ce que par ce micro-fait que j'évoquais au départ.
Ouais, je pense que tu as tout dit, ou presque. Mais effectivement, c'est aussi cet enjeu. Donc la question, c'est de savoir comment accéder à ces investitures, comment avoir son nom, en fait, en haut de l'affiche pour pouvoir être investi par le parti. Mais il y a aussi une question qui est assez importante, c'est comment on crée un environnement qui soit safe, en fait. Et là, je pense particulièrement aux femmes. Je pense aux violences sexuelles et sexistes qui sont encore venues, grâce notamment au travail mené par Alice et les autres créatrices de l'Observatoire pour les violences sexuelles et sexistes, qui sont encore venues nous rappeler qu'en fait, quand on est une femme, qu'on fait de la politique, on est dans un espace qui est réservé aux hommes. Et en fait, on traverse cet espace et il faut... soit qu'on accepte un certain nombre de violences, parce qu'il y en a qui les acceptent pour avancer, malgré elles, malgré leur volonté, soit on décide de dénoncer et là on se fait écarter. Comment on fait ?
Ouais, effectivement, c'est parce que c'est vrai qu'il y a... Enfin, moi, je me suis vraiment les derniers mois de campagne ont été un révélateur en fait, parce que ça cristallise évidemment ces périodes-là. Tout ce qu'il peut y avoir de particulier en politique et parce que aussi moi la première année d'élu je l'avais fait en mandat aussi, c'était local et avec un groupe très soutenant. Et là ce qui était vraiment frappant, c'est qu'en fait même quand ils viennent vous chercher, les partis n'ont pas les moyens de leurs aspirations, si tant est qu'elles étaient sincères, on va dire qu'elles étaient sincères, mais après c'est trop en fait. Pour eux, la parole féministe et antiraciste, mais ça va, c'est beaucoup trop, en fait. Ils n'ont vraiment pas les capacités, mais je l'ai vu, de l'englober. C'est la panique, mais vraiment la panique. C'est-à-dire que, et le moyen, et moi, c'est ce que j'ai vécu, mais là, pendant des mois, j'en pouvais plus. C'était insupportable, cette campagne, là, les équipes de Jadot, là, les boys, là, c'était vraiment... Dès qu'il y avait un truc qu'on se permettait de... Je ne sais pas, mais ce que je dis habituellement, je c'était pas nouveau, ça fait des années que je dis que oui, il y a du sexisme en politique. Et oui, les Verts n'y échappent pas. Et alors là, tout d'un coup, c'était... Comment oses-tu ? Ce tissu de mensonges, et c'est vraiment mot pour mot, et des cadres du parti, comme ça, qui prennent la peine à 22h42, un soir, de m'envoyer une salve de messages pour me dire ça. Et des gens qui m'appellent pour me dire « Qu'est-ce que tu caches comme dessin ? Si tu fais ça, ce n'est pas vrai ce que tu dis, ça ne peut pas être vrai que nous soyons un parti sexiste ou que les féministes, que tu aies reçu des barrages et tout ça. Enfin, donc, certainement, tu as un autre plan. Donc, en plus, toujours, il y a toujours des projections, en fait, sur les manières de se mouvoir des militantes en politique, qui sont les leurs, parce que c'est pas du tout... Enfin, moi, j'avais pas d'intention. Merci, je suis pas encartée. Je veux pas du tout... le plus loin je me tiens, le mieux c'est, quoi. Donc vraiment de projeter aussi sur leur façon de poser des jalons dans une carrière politique, de pas faire de faux pas, et que si on se permet tout un coup de dire quelque chose un peu fort, ça veut sûrement dire qu'on a un plan derrière la tête. Non, c'était pas le cas. C'est vraiment, à chaque fois, une certaine spontanéité, mais qui est très simple, hein, qui est juste de garder le même discours quand on arrive en politique que celui qu'on a quand on est activiste. Donc ça, c'est très violent, et c'est vraiment aussi de percevoir à quel point cette parole-là, mais c'est exactement valable pour d'autres personnes qui vont dénoncer le racisme, elle n'est pas audible, en fait. Ça fait, notamment dans les partis de gauche, en fait, parce que j'allais dire, bon, chez les autres, à la limite, ils sont presque prêts à l'assumer, quoi. Donc voilà. Mais chez les partis de gauche, il y a quelque chose de terrible, en fait, qui se joue à ce moment-là et qui provoque, face à la messagère, au messager, une puissance d'éviction et de volonté de silenciation, en fait, très forte. Et je pense vraiment qu'on en est au point, et que là encore, c'est valable pour différents combats. On en est au point, on commençait l'émission en évoquant la question de la parité, où pour moi, c'est vraiment l'enjeu, là, c'est pas les femmes en politique, c'est les féministes en politique. Et c'est pareil, d'ailleurs, je parlais de Nadira Beltrèche tout à l'heure, mais c'est exactement ce qu'elle dit très souvent, ce n'est plus la question, même si elle est encore énorme, hein, des personnes racisées en politique, c'est la personne, est-ce qu'il y a des militants et militantes antiracistes ? Et voilà, c'est vraiment, est-ce que ça, on est prête à l'avoir dans les... Et ça, c'est pas du tout le cas. Enfin, pas du tout. C'est exceptionnel. Enfin, faut bien réaliser que c'est l'infime exception d'avoir des personnes qui portent cette parole réellement antiraciste, réellement féministe dans des assemblées politiques. Il y en a, mais quasi pas. Et bon, j'espère, ceci dit, là, c'est vrai aussi que dans les candidatures qui ont pu se frayer un chemin ou autre, il y en a quelques-unes qui pourront porter ce... Mais le problème, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, en fait, pour les gens qui vont arriver dans cette Assemblée nationale, je vois pas où elles vont aller. Même, enfin, je veux dire, elles sont dans chaque parti, mais pour moi, ça fonctionne pas comme ça. Il va leur falloir des alliés. Tout seul, c'est pas possible, en fait, d'y arriver dans une assemblée. Et elles sont pas forcément toutes du même parti. Je pense que ça va réexploser si ça se trouve la NUPES après. Donc, je sais pas comment elles peuvent s'arranger pour peut-être, je sais pas, se recréer un groupe ou autre. Et en tout cas, pour répondre à la question initiale sur le comment on fait, moi, la leçon que j'ai apprise là, c'est que j'aurais dû, voilà, croire. Mais moi, mon intuition, c'était qu'il fallait surtout pas rentrer dans le jeu des investitures des partis et que c'était discussion que j'ai eu beaucoup aussi avec Fatima Wasak, et qui avait complètement raison en disant, mais qu'est-ce que tu vas aller te ridiculiser devant 15 personnes pour leur demander s'il vous plaît, est-ce que, non, enfin, on va pas mendier, en fait. Et je pense que c'est quelque chose de très important, parce que c'est déjà suffisamment compliqué quand vous arrivez en politique, si en plus c'est en l'ayant demandé, ça va pas. Moi, vraiment, ce qui m'a aidé, c'est qu'au moins, ils étaient venus me chercher. Donc après, ils peuvent pas, bah, ouais, trop tard, quoi. Dommage, mais voilà. Mais vous, si en plus vous allez demander quelque chose, je pense que c'est très compliqué. Et donc, je pense que l'intuition était à suivre, mais j'aurais voulu qu'on se lance qu'on lance à part, en fait, qu'il faut lancer en dehors des partis. Et la force de ça, c'est, il y a un des derniers épisodes de Popol qui l'a bien montré, c'est, et ça avait été dit aussi, c'est qu'en fait, on voit, je conclurai par ça, qu'ils sont quand même très nuls, quoi. Enfin, je veux dire, faut voir les résultats qu'ils ont. Mais c'est pas juste, bon, on a parlé des Verts, mais même la France Insoumise, ça fait 3 fois, là, ça va. On voit l'état du pays, comment les gens, les discriminations, les inégalités, tout ce qui se passe en dehors, comment ça se fait pour pas que la gauche soit capable d'une traduction politique de ça, et que dehors, les personnes, voilà, qui devraient être investies, qui devraient être représentées dans le champ politique, elles sont très futées, très malines. En général, c'est des warriors et ça marche fort. Et je pense que la force, elle est là. Il faut juste se faire un tout petit peu plus confiance. Moi, c'est la ce que je retire, en fait. De vraiment, on n'a pas besoin de passer par ça.
C'est clair. Bien, bien dit aussi. J'avais une question, du coup, pour toi, Réjeanne, qui analyse beaucoup les luttes, les mouvements.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le sentiment que finalement la pierre angulaire de l'engagement politique de gauche, la structuration idéologique, repose sur ce qui était initialement la lutte des classes. Et qu'il y a un certain nombre de luttes qui ne sont pas des luttes contemporaines, parce que la question de l'antiracisme ou du féminisme, on peut considérer pour certaines personnes considèrent que c'est nouveau, mais il n'y a rien de nouveau là-dedans. Je veux dire, c'est des combats qui sont menés depuis des siècles, voire des millénaires peut-être. Est-ce que les partis politiques sont incapables de les intégrer, ces combats-là ? Est-ce que les partis politiques, finalement, sont totalement hermétiques à l'intersectionnalité, en quelque sorte ?
Non, mais ils sont dans une logique de... En effet, l'impression que m'a donnée en particulier cette recherche, c'est qu'il y avait deux logiciels qui étaient incompatibles. Et l'expression qui est intéressante là-dessus, c'est la convergence des luttes. La convergence des luttes, c'est une expression qui est beaucoup portée par les partis politiques et par les syndicats, et qui est vraiment l'idée que pour être efficace... il faut se mettre derrière la même bannière et qu'en effet, on n'est pas tant dans un polycentrisme des luttes, ce qui est plutôt la réalité des mouvements sociaux actuels, mais dans le fait de... Voilà, on arrive à se mettre d'accord sur un programme commun et puis on va se mettre tous les uns derrière les autres avec toujours des logiques électorales, de réussite électorale. Et comme l'a bien dit Alice, il y a quand même cette idée que le critère premier, c'est celui... du service au parti, d'une forme d'allégeance et de docilité, avec quand même une structuration qui est très peu horizontale et qui est quand même aussi très personnalisée, et Dolores en a parlé, avec quand même une logique de chef, hein, de verticalité très forte. Donc, d'un côté, il y a cette idée que pour être efficace, en particulier à gauche, il faut porter la convergence des luttes avec, en effet, hein, une recomposition de la lutte prioritaire, de la lutte première autour de la lutte des classes, avec quand même le fait de... Ils ne sont pas complètement aveugles et sourds. Donc, ils ont compris qu'il y avait d'autres enjeux. Ce qu'on appelle les nouveaux mouvements sociaux, on appelle ça les nouveaux mouvements sociaux depuis les années 60. Hein, cette idée que les mouvements de gauche, la dénonciation des injustices, c'est plus seulement sur les inégalités sociales et économiques, mais aussi sur le féminisme, l'antiracisme, l'écologie en particulier. Donc ça, ils ont intégré, mais ils l'ont intégré de manière assez instrumentale. Et on est quand même encore dans une reproduction d'une lutte prioritaire et le fait que l'intersectionnalité, c'est quelque chose qu'on rajoute au noyau central. Donc on est dans un logiciel de ce type qui porte l'efficacité avec l'idée d'unité, en fait, et pas du tout de polycentrisme. Léon Trotsky, hein, il avait une expression qui était le front commun, hein, qui est tout à fait différente de la convergence des luttes, qui est cette idée de marcher séparément, frapper ensemble. Donc on garde, et moi ce que m'ont beaucoup dit les 130 responsables d'associations et activistes que j'ai interviewés, c'est qu'ils se mettent vent debout contre la convergence des luttes parce qu'ils comprennent que c'est une recomposition d'hégémonie et ils défendent plutôt ce qu'ils appellent des synergies, des alliances. Donc soit parce qu'on a le même ennemi commun, l'ennemi commun, hein, le néolibéralisme ou la République héritée, prétendument neutre, mais qui en réalité sexiste, raciste et écocidaire. Donc on va se retrouver, comme me dit Priscilla Ludowski, initiatrice en particulier des Gilets jaunes, mais qui se bat aussi contre le chlordécone, enfin qui est sur plein de luttes, et qui dit, en fait, on se retrouve devant les entrepôts d'Amazon, Gilets jaunes, Gilets verts, enfin voilà, justice sociale, justice écologique et Gilets noirs. On ne s'est pas donné rendez-vous. En fait, c'est des alliances spontanées parce qu'on a le même ennemi commun. Donc soit ça peut être ça, le même ennemi commun, donc là on est dans le contre, ou dans le pour, à un moment donné on peut s'allier en se disant, ben voilà, on va frapper ensemble, on va lutter ensemble, mais c'est pas pour autant qu'on va perdre en tant que premier concerné, en tant qu'allié, mais sur certaines causes, notre spécificité qui fait notre authenticité et notre efficacité. Et ça c'est très peu audible pour les partis politiques. Les partis politiques, ils demandent de la diligence, ils demandent de la docilité, et c'est très intéressant ce que dit Alice. C'est-à-dire que ce qui est perçu comme le cœur de la lutte chez les activistes dans les luttes sociales, les luttes d'en bas, c'est-à-dire la dénonciation, la critique, l'émancipation par aussi la liberté de parole, va être vu comme une trahison au sein des partis politiques. Alors que, au contraire, c'est le cœur de l'idéologie et de la force de l'émancipation. Donc c'est là où tu dis ça assèche. En fait, ça assèche ce qui donne du sens politique aux luttes. Donc c'est vrai que là, on voit bien qu'il y a une très grande compréhension de ça de la part des activistes des luttes sociales, des luttes d'en bas. Et j'ai l'impression, donc il faudra que je fasse les entretiens de l'autre côté, une incompréhension de l'autre côté. C'est-à-dire qu'en fait, du côté du logiciel des partis politiques, il y a l'idée que pour être efficace, il faut... être tout droit, c'est le nombre de combien dans le bataillon, enfin voilà, une vision qui n'est pas une vision marcher séparément, lutter ensemble, où on m'a beaucoup cité l'aborigène d'Australie, Lisa Watson, qui dit, si tu viens pour m'aider, tu peux repartir. Si tu considères que ton émancipation est liée à la mienne, travaillons ensemble. Et ça pourrait être tout à fait pensé de cette manière-là, dans les partis de gauche, en disant, ben, oui, il est important qu'il y ait des premiers concernés, qu'il y ait des personnes qui portent la lutte, les luttes, et qu'on travaille ensemble sur l'émancipation, sans hiérarchisation, voilà, sans paternalisme, voilà, sans personnification. On n'est absolument pas là-dedans.
En vrai, quand j'entends ça, pardon, hein, mais je me dis, c'est tellement délirant, puisqu'en fait, non mais, les partis sont censés être au service, en fait, ou sont censés, à minima, représenter les personnes. Et c'est vrai qu'il y a une vraie différence entre... Parce que moi, j'entendais la convergence des luttes dans les mouvements militants. Mais c'est plus la question du polycentrisme et de... on marche ensemble parce qu'on a un ennemi commun que ce que... Là, je découvre que les partis, en fait, découvrent que on peut lutter à côté d'autres personnes parce que c'est important et qu'il s'agit justement d'abattre, entre guillemets, l'ennemi commun ou l'ennemi. La question, c'est de savoir si les partis ont encore un ennemi. La question, c'est de savoir si le parti écolo a vraiment comme ennemi ceux qui, justement, nous pourrissent le climat, ne veulent pas faire d'efforts pour rentrer dans les accords de Paris, des 1% de hausse de température, etc. La question, c'est de savoir si le PS, quand il s'oppose, en tout cas une frange du PS, et on voit qui sont les personnes qui s'opposent à la NUPES, qu'on peut juger bancale, pas calibrée, etc., mais en tous les cas, qui était un pas vers quelque chose, est-ce que leur ennemi commun, justement, c'est bien de combattre le racisme, de permettre à toutes les personnes d'avoir l'égalité ? La question, c'est quand même de savoir si la défiance, en fait, que les personnes ont envers les politiques et les partis n'est pas justement légitimé par le fait que quand ces personnes-là se disent « on va lutter », ils n'ont rien à voir avec ce que les partis ont envie de porter. Et donc, de se dire que ces partis sont devenus presque des corps étrangers dans une société civile qui, elle, va mettre son essence, qui, elle... Et d'ailleurs, il suffit de regarder la question des Gilets jaunes. Comment la question des Gilets jaunes a été intégrée ? On a vu qu'il y a des partis qui ont surfé, qui ont tenté de surfer, et on a vu que à partir de l'émergence de ce mouvement qui a pris les rues de Paris avec les difficultés qu'on sait, et tout ce qui a été mis en œuvre, on le sait même pour quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, peut-être que la question des Gilets jaunes lui a permis de se rendre compte d'autant plus que les violences policières étaient un fait, alors que ça fait 20 ou 30 ans que des personnes dans des quartiers dits populaires se battent pour dire que c'est un problème en France. Donc la question, c'est de savoir si Bon, on peut poser peut-être cette question comme ça. Est-ce que les partis sont encore légitimes ? Tu parlais tout à l'heure de Simone Veil et de ce texte sur la suppression des partis politiques. Mais c'est surtout de savoir si ce sont encore des entités qui sont... pas légitimes, mais qui sont des entités qui sont encore là pour ce qu'elles sont censées être. C'est la question, quand même. Ça me paraît délirant qu'on soit là en train de se dire... Eux, ils sont de leur côté, finalement, bah parce que, bon, ils ont leur ticket resto quand ils sont employés, etc. Et de l'autre côté, il y a des militants qui disent, en fait, vous parlez de nos vies. Et en fait, nos vies sont en train d'être smashées par le grand capital, sont en train d'être smashées par le sexisme, les discriminations qui fait qu'on ne peut pas avoir d'appartement, même dans une grande ville comme Paris, etc., etc. Moi, ça me paraît fou qu'on en soit là à se dire ça tranquillement. Ça me paraît délirant.
C'est clairement délirant. Et puis, pour abonder un peu dans ce sens et aller vers la question de la suppression des partis politiques, tu l'évoquais aussi tout à l'heure, Alice, en faisant référence effectivement au texte de Simone Veil. Est-ce que la vie politique telle qu'elle est structurée aujourd'hui en France permet d'exister politiquement et institutionnellement sans passer à travers la case parti politique ? Est-ce possible ? On le voit avec les gilets jaunes. Les gilets jaunes, tout le monde s'est posé la question de savoir est-ce qu'il y allait avoir une traduction politique, alors que c'était éminemment politique comme mouvement. Mais ce qu'on attendait, c'était une traduction partisane. Une traduction partisane, une traduction institutionnelle. Et on a considéré que ce mouvement-là avait échoué politiquement parce qu'il n'y avait pas eu de traduction dans la création d'un parti politique.
Qui est allé dans le sens de ce que les personnes en fait critiquaient sur les gilets jaunes, c'est-à-dire cette mouvance, il y a pas de leader, ouais. Et quand il y en a qui s'en détachent, c'est des personnes qui sont quand même plutôt portées vers la droite, voire l'extrême droite. D'ailleurs, Benjamin Cauchois, qui est devenu l'un, enfin en tout cas des cadres éminents du parti Debout la France, qui est quand même pas un parti particulièrement de gauche.
Non, ça c'est clair. Donc il y en a quelques-uns qui ont été récupérés en fait par des partis et des mouvements déjà existants. Il y a eu un énorme enjeu de récupération, notamment de la part des partis d'extrême droite, ça c'est certain. Il y a certains partis d'extrême gauche qui sont arrivés peut-être à récupérer quelques personnes, mais finalement assez peu. Et en fait, on a globalement considéré que c'était un échec politique parce qu'il n'y avait pas eu cette traduction partisane. Du coup, la question que je me pose, c'est comment ces mouvements finalement sociaux d'aujourd'hui, qui sont porteurs quand même de vecteurs de changement, parce que c'est ça la réalité finalement, le mouvement des Gilets jaunes a abouti à certains changements qui sont nuls à chier, bien sûr, parce que Emmanuel Macron n'a pas voulu en prendre part et a fait du window dressing comme d'habitude. Comment on fait pour exister politiquement à travers sans parti en fait, sans structure partisane ?
Alors, si je prends des, je pense que le but c'est pas parce que ça va être compliqué la suppression générale des partis, c'est d'être de leur être indispensable en fait, et que c'est pas si compliqué que ça. C'est-à-dire que qu'ils aient l'obligation, c'est du rapport de force, du rapport de notoriété, du rapport de réseau, enfin tous les mots là qu'ils emploient, mais qu'on peut très bien avoir, qu'on traduit pas forcément dans les mêmes, mais qu'on a en fait, en tant que militant et militante, pour qu'ils en aient besoin et de venir chercher. C'est-à-dire que le souci, c'est que c'est quand même, après ça ne veut pas dire que ça va pas, on peut pas le désorganiser, mais là, actuellement, la vie démocratique est construite quand même beaucoup sur des questions de partis politiques et de la participation aux élections, notamment financièrement, notamment, enfin, y a énormément d'impératifs en fait qui rendent compliqué ça. En revanche, moi, je pense que le parcours, moi j'ai eu par exemple, il peut se traduire aussi dans d'autres façons, c'est-à-dire de venir chercher. Je suis pas encartée, j'ai pas l'intention de l'être. Et ça peut fonctionner comme ça en se rendant voilà. Mais après, il y a quand même un gros souci en France, je trouve, par rapport à d'autres choses de représentation aussi des mouvements militants et des mouvements autres dans le champ politique, vraiment dans le champ d'aller les chercher pour être investis. Donc si eux ne comprennent pas, je pense que c'est pas en créant. Encore une fois, c'est pour donner un exemple concret, je trouve que ça aurait été possible pour ces législatives-là, qu'il aurait fallu s'y prendre un peu plus tôt. Moi, je sais que d'expérience, maintenant, je vais faire... Et je pense qu'il y a d'autres gens comme moi qui apprennent et tout ça, et qu'on apprend au fur et à mesure, et qu'on saura mieux encore pour la prochaine fois faire justement en dehors des partis, c'est-à-dire certainement en partant plus tôt et en faisant que nos candidatures soient plus installées et qu'ils viennent nous chercher au moment de justement l'union. Et ça, je pense que c'était possible, y compris de se regrouper. Et je dirais, parce que le truc des partis politiques, parce que ça je finis là-dessus, mais c'est... Pour moi, c'est aussi un problème, tu l'as évoqué tout à l'heure, Dolores, mais médiatique. C'est-à-dire que le prix l'activisme de suivre via les partis politiques, parce que finalement, enfin, c'est un truc de course à audience, mais c'est là où c'est comme des petites écuries, quoi. Hein. C'est comme quand, quand t'as un journal qui crée le Tour de France, l'ancêtre de l'équipe a créé ça pour avoir de l'audience et que ça continue durant la période creuse de l'été. Bon, les écuries, les partis politiques, ou souvent, je sais pas si vous lisez des trucs ou que vous entendez, c'est vraiment des gens pas trop connus. Parfois, ils commentent sur, voilà, telle personne de la droite. Néanmoins, ça crée, c'est les mêmes raisons qui expliquent aussi qu'on ait le sport qui fasse les unes des ouvertures de JT et de Flash. On peut se dire, est-ce que c'est ça l'actualité ? Je pose pas de critique, hein. Je dis ça. Non, c'est créé parce qu'il y a ce truc de la compète, du résultat qui arrive. Et ça, c'est complètement ça que permettent de rejouer la vie des partis politiques. Et à nous, en revanche, je pense que ça, faut être un peu futé avec les médias, il y a tout à fait une manière de le recréer et redonner une attention en fait à ce qu'on fait avec leur biais.
Alors juste peut-être pour nous plomber vraiment le moral, je pense qu'il ne faut pas idéaliser non plus les associations, les activistes, les rapports de pouvoir, ils existent aussi, les parts de marché, elles existent aussi. Se défaire de la radicalité rigide de Joran Freeman sur le risque de croire qu'il y a une absence de structure. Souvent, quand on est dans une logique où on dit « ouais, c'est horizontal et tout », c'est parce qu'il y a de la verticalité, mais qui n'est pas explicité, c'est encore plus compliqué de la déconstruire. Hein. Donc, voilà, tout ça est quand même très compliqué. Juste, idéalisons pas non plus les luttes sociales sur la sororité, la solidarité, la bienveillance et le manque de stratégie. Mais... juste par rapport au rapport aux partis politiques. Plus largement, ça dit quoi ? Ça dit, en termes de lutte sociale, le rapport à l'État, le rapport au droit, le rapport à la réforme, c'est-à-dire comment est-ce que les luttes sociales considèrent qu'elles doivent agir plutôt à la marge, à travers de la désobéissance civile, de la remise en cause de la frontière violence-non-violence, voilà, le fait de porter des cohérences en local, on me parle beaucoup des îlots qui feront des archipels, des jardins partagés. On me dit qu'on ne fera pas le grand soir. Alors, si on ne fait pas le grand soir, la démocratie a encore un avenir, démocratie représentative, assez long. C'est-à-dire qu'on va quand même avoir des élus qui vont voter des lois, qui vont régir nos conditions de possibilité, aussi des luttes. Hein. Donc, les activistes en ont conscience. Ils sont quand même, pour la majorité, en tout cas dans l'échantillon moi que j'ai fait, dans une logique de diversité tactique. Cette idée qu'il n'y a pas de pureté militante, il n'y a pas qu'une seule bonne manière d'être activiste, que ça, c'est la source de beaucoup de burn-out, hein, aussi parmi les militants, cette idée qu'il n'y aurait qu'une seule bonne manière de militer et qu'on serait toujours trop ou pas assez. Donc, c'est vraiment la question de la diversité tactique. Et dans cette logique de diversité tactique, soit... au sein d'un même collectif ou chez un même activiste, on peut avoir des moments dans sa vie où on sera plutôt sur du plaidoyer ou plutôt sur le fait de se dire « oui, j'ai une voix à porter », de pouvoir modifier la gestion de la cité, soit au niveau local, municipal, soit au niveau législatif. Mais en même temps, je veux aussi faire de la désobéissance civile, ou à un moment donné de ma vie, j'ai fait de la désobéissance civile. Voilà. Donc je pense que plus largement, c'est à la fois comment les partis politiques... Ils continuent ou ils deviennent des lieux de portage d'idéologie, de discussion sur ces enjeux et le fait de pouvoir les porter réellement dans les traductions à travers les lois, hein, c'est quand même ça, ou dans la vie locale, dans la gestion locale. Et comment aussi les activistes des luttes sociales, ils sont à la fois avec l'État, contre l'État, à côté. Voilà. Donc il y a tous ces enjeux qui sont posés quand on parle de la position et de la place aussi des activistes par rapport aux élections, par rapport aux partis politiques. Les partis politiques, c'est des organisations, comme les collectifs deviennent rapidement des organisations. Bien sûr qu'il y a des enjeux de pouvoir, mais il y a aussi des enjeux de pouvoir dans le milieu associatif ou même dans l'activisme plus fluide. Donc ça... sur le rapport à la structure, à l'horizontalité, enfin, je pense que c'est important d'être lucide aussi sur ce qui se joue. La question, c'est pourquoi faire ? Voilà. Pour quelle efficacité ? On parle beaucoup d'efficacité, mais pour porter quoi ? Et malheureusement, le sujet, c'est souvent pour porter qui ? Et c'est ça qu'on est en train de discuter. Et comme le disait Dolores, dans des partis qui se disent justement porter des idées, déconstruire ce modèle-là, la question de l'exemplarité, elle se pose de manière beaucoup plus forte. Et la difficulté de mettre en cohérence et de porter de la politique qui ne soit pas des reproductions d'une élite qui est en plus une élite très peu conforme à l'inclusivité ou à l'émancipation qu'elle serait censée porter. Donc, voilà, je pense qu'il ne faut pas idéaliser ni les luttes sociales, ni diaboliser les partis politiques. Il y a des enjeux de pouvoir des deux côtés. La question, quelle est la place qu'on fait à la politique? Est-ce qu'on veut toujours porter de la démocratie représentative? De quelle manière, en articulation avec de la démocratie délibérative, participative, mais aussi avec des luttes beaucoup plus spontanées? Moi, ce qui est ressorti quand même dans ma recherche, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une logique de radicalité très forte. C'est-à-dire que les inégalités, les injustices, elles sont portées et elles sont dénoncées à travers leurs causes, leurs racines, pour des raisons qui sont des raisons, bien sûr, idéologiques, de compréhension des enjeux, mais aussi d'efficacité. C'est-à-dire que pour arriver à les déconstruire, il faut les questionner et en tant que structurelles. Il y a ça, mais il y a aussi l'attachement à la fluidité. C'est-à-dire cette idée que, et c'est pour ça que les partis politiques, ils ont du mal à la fois le comprendre, à l'entendre et à l'intégrer. C'est-à-dire que comment est-ce que des partis qui sont fondés sur la rigidité, est-ce qu'ils peuvent comprendre que l'émancipation, elle se fait dans des alliances fluides, dans le fait de ne pas recomposer des hégémonies, alors que leur but, c'est d'être hégémonique. On le voit bien, là, c'est la lutte pour l'hégémonie à gauche qui s'est jouée. Donc, voilà, tous ces questionnements-là, ils sont intellectuellement très intéressants. Ils sont politiquement déprimants. Parce qu'on voit que ce que ça permet de mettre en évidence et de continuer à reproduire, c'est quand même plutôt des messages conservateurs. Et on a vu que le cadrage politique pour la présidentielle, il a été porté pas sur l'émancipation, pas sur l'égalité, mais sur l'immigration, sur la sécurité, sur l'identité. Et même la campagne des législatives, et là, comme l'ont dit Alice et Dolores, les journalistes, les journaux, les médias ont leur part de responsabilité. Moi, j'entends très peu des questionnements sur les conditions de possibilité pour porter réellement une idéologie au pouvoir, en responsabilité, qui soit une idéologie d'émancipation. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut modifier ce cadrage-là? J'ai aussi l'impression très clairement qu'il y a eu un mouvement où il y a eu des brèches qui se sont ouvertes, il y a eu des nouveaux sujets, il y a une réappropriation de la démocratie par la réappropriation de l'espace public, à la fois physiquement, les Gilets jaunes, Extinction Rébellion, Nuit Debout, les collages contre les féminicides, virtuellement, MeToo, Black Lives Matter, enfin voilà. Et là, on est dans un backlash. Enfin, je pense que c'est important quand même de se le dire. C'est pas nous qui sommes déprimés individuellement. Il y a un backlash. Enfin, c'est plus grave, mais bon. Parce que... Il y a un retour de bâton de ceux qui sont réactionnaires et conservateurs. La question, c'est comment on tient et comment on continue à ce que ces brèches... Le couvercle, il est en train d'être remis, il est remis, mais les brèches continuent à s'ouvrir. Donc c'est là où... Voilà. Après, il faut arriver à soulever le couvercle. Et ça, comme vous l'avez beaucoup dit, c'est des rapports de force qui se font au sein de la gauche, mais qui se font aussi avec ceux qui portent d'autres conceptions. On est dans le contre, mais on est aussi dans le pour. Et ça, je pense que c'est important. On a parlé d'ennemis communs. Ce qu'on reproche beaucoup à ces mobilisations, c'est d'être que dans le contre. Et d'être dans la segmentation de la République, d'être dans le portage de causes. Voilà. Mais il y a aussi un pour. Et ça, c'est important de voir qu'il y a une conception de ce qui est juste. Hein. Donc il y a aussi une conception du bien commun. Mais malheureusement, comme tu disais, c'est très chronophage. Tout ce qui n'est pas de discussion sur le fond et sur l'idéologie, mais plutôt sur des logiques de place et de rapport à l'espace en politique. Donc voilà, là-dessus, je pense que...
Mais c'est en ça que, sans idéaliser, en fait, on est quand même un peu aussi dans une caricature et dans une espèce de mise en scène de ce que... On parle d'intermédiaires. Même les militants qui sont certes issus de la société civile restent quand même des intermédiaires avec plein de personnes qui ne se sentiront jamais représentées, etc., etc. Donc évidemment, il ne s'agit pas de... Bien sûr, donc il ne s'agit pas d'idéaliser. Par contre, quand, et notamment sur la gauche, les personnes qui seraient censées lutter sur les mêmes segments, évidemment pas de la même manière... se font entendre de plus en plus. Et d'ailleurs, même tu le disais tout à l'heure, quand on te dit « attention, tu risques de venir défaire quelque chose », mais en fait, il faut que les personnes se posent la question de savoir pourquoi, en fait, à un moment donné, ces personnes viennent lutter ou dire « attention, là, on n'est pas exactement sur le sujet » ou en fait, en tout cas, qu'est-ce que vous attendez pour adresser ce sujet-là ? Et justement, là, il y a un curseur. Où est-ce qu'on met la radicalité ? C'est où ? C'est dans quoi, en fait, la radicalité? Donc, adresser la question, enfin, le problème par la racine, ok, très bien. Mais enfin, les personnes ensuite sont après très vite quand même très concrets. Bon, il y a du militantisme comme ça évaporé, mais on est quand même, et justement parce qu'il y a une obligation médiatique donc de concrétiser des choses, un article ne se fait pas, enfin on lit pas tout ce que des analyses du monde diplomatique. On va lire un reportage, on va lire une analyse, une enquête, c'est très concret. On n'est pas sur voilà. Donc où est-ce qu'on va aussi placer la radicalité? Et je pense que justement, c'est aussi en ça que les militants et les activistes, tout aussi parfois, et j'ai bien observé aussi ça, notamment dans des organisations qui sont voilà, où les personnes qui luttent sont principalement, en tout cas, minorisées. Voilà, il y a énormément de problèmes, et je pense que aussi les activistes et militants sont aussi souvent des vigies aussi de ce qui se passe. Et c'est aussi un peu le thermomètre. De ce qui en fait ne fonctionne pas, ne va plus, ne va pas assez loin dans la société civile. Et ça, je pense que c'est aussi important de se le dire, parce que oui, on ne doit pas idéaliser complètement les mouvements, etc. Et d'ailleurs, très vite, souvent, c'est ce qui est drôle, c'est que les gilets jaunes, on les a pas idéalisés très très longtemps. Hein. C'est marrant. Mais par contre, là, on se retrouve avec la guerre en Ukraine, exactement dans la problématique qu'ils dénonçaient, exactement la même. Donc, en fait, il y a aussi, je pense, je ne sais pas comment le dire, et tu es une chercheuse, donc, mais je pense qu'on choisit quand même aussi un peu, entre guillemets, ces combats, et qu'on choisit aussi un peu ce qu'on peut aisément, plus facilement diaboliser par des moyens, et notamment, franchement, la question médiatique se pose. Par exemple, dans la campagne présidentielle, Marine Le Pen, moi j'ai attendu qu'à un moment on dise, madame, vous portez quand même un programme raciste, et nous allons analyser avec vous le programme raciste. J'ai plutôt eu l'impression qu'il y a eu un accompagnement de sa communication, parce que bah, les journalistes et les médias sont, enfin voilà, ils reçoivent des communiqués, enfin on reçoit hein, des newsletters, que ce soit des groupes dissous, Génération Identitaire, ils continuent d'envoyer des newsletters, ils continuent d'être actifs. Marine Le Pen et son parti continuaient d'envoyer des informations sur voilà, mais il m'a pas trop semblé qu'on ait eu un décryptage acéré de son programme, qui était quand même très clair sur ce qu'elle voulait faire. Et on a juste attendu le deuxième débat, enfin le premier débat, mais du coup les débats du deuxième tour, pour se dire ah bah elle est encore nulle comme en 2017, bah allez c'est bon, elle passera pas. On a attendu ce moment là et qu'on vienne. Et j'ai pas fait d'analyse très précise, mais par contre, en étant dans la campagne de Yannick Jadot, j'ai regardé les médias tous les jours. J'avais pas le choix. Ils passaient le matin dans les 4V, ils passaient l'après-midi sur Europe 1. Donc, en fait, j'étais branchée en permanence. J'ai entendu, et je n'ai pas beaucoup entendu, qu'on ait fait ce décryptage-là, qui aurait permis, en fait, d'accompagner. Donc, après, qu'on s'étonne qu'il y ait eu des mouvements, des gens qui, effectivement, et leur organisation peut être tout aussi déplorable que les partis politiques, mais ils ont agi comme des vigies qui étaient nécessaires par rapport au moment qu'on vivait, qui était un moment où, en fait, on n'a pas dit, on a, et même Éric Zemmour, 7%, il a fait 7%, le gars. Et on l'a vu, entendu partout, tout le temps. Même dans des médias qui prétendent, ou en tous les cas qu'on assignait à ne pas être des médias asservis, entre guillemets, à ces saillies racistes, homophobes, machistes, tout ce qu'on veut. Il y a quand même un souci. Et s'il n'y a pas ces organisations qui sont tout aussi imparfaites, mais qui restent pour moi, encore une fois, un peu en vigilance sur ce qui se passe, bah en fait, y a aussi un problème de... est-ce que tout le monde a joué aussi son rôle dans tout ça, en fait? Est-ce que tout le monde a vraiment joué son rôle? En tout cas, moi, ça m'interpelle. Et bien sûr que quand on analyse et qu'on regarde, on se dit, bah voilà, il y a plein de choses et il faut regarder dans le détail et tout. Mais on voit aussi que la communication, la manière dont tout ça s'est déroulé, n'allait pas non plus forcément dans le sens de justement permettre en fait que et la démocratie et les personnalités politiques, etc., qui avaient des choses à dire, qu'on puisse en discuter, etc. Ça n'a pas permis aussi que ça puisse advenir. Et pour moi, c'est aussi un vrai problème.
Oui, c'est clair. Je crois que c'est le moment où on va devoir peut-être mettre fin. C'est compliqué, hein, je n'ai pas envie de m'arrêter là, moi. J'ai trop envie de continuer à dire des trucs. On va effectivement passer la parole au public, mais je voulais d'abord vous donner que vous donniez un petit mot de la fin, chacune, que vous prononciez, pardon, chacune un petit mot de la fin. sur quelque, je sais pas, une note pas forcément positive. Hein. On n'est pas forcément là pour se voiler la face. Alice, je te vois beaucoup rire.
Non, je sais pas. C'est compliqué aussi de savoir quoi dire sur le politique, toutes les questions qui se posent. Moi, je réfléchis beaucoup sur comment le dire, quoi dire. Ce qui est sûr, on a beaucoup tourné finalement autour de la question des partis politiques, de la question, je pense, du mur parfois. Il y a deux choses pour moi. C'est qu'est-ce qui nous font perdre comme temps ? Mais c'est insupportable. Mais c'est pas juste les partis, c'est les gouvernants. J'en peux plus, là, les rassemblements. Mais c'est tellement... Mais on perd... Vous faites perdre du temps à tout le monde, là. Vraiment, quoi. C'est des blocages, quand même, où on reste dans des choses. Je pense à ce qui s'est passé récemment avec le nouveau gouvernement, quoi. C'est vraiment qu'on se retrouve à faire un rassemblement MeToo politique. Enfin, voilà, des choses qui sont des évidences. Une fois qu'on a dit ça... En fait, c'est que c'est construit tel quel et que c'est il y a évidemment une même si ça moi ça me paraît toujours j'arrive pas j'essaie de donner à l'autre je sais pas moi un truc de bonne foi où je me dis mais non enfin il y a évidemment c'est évidemment construit et c'est évidemment volontaire quand on en arrive là et à partir de ce moment là il faut plus dire c'est quand même très déprimant quand je disais le truc de chronophage revenu de perdre son temps et tout ça non c'est parce que c'est réellement c'est une bataille quoi. C'est une lutte, c'est volontaire de leur part, c'est volontaire et c'est pas ils vont apprendre, hein, ils vont pas apprendre, ils vont faut pas falloir justement mener et gagner ce combat là et je crois encore plus que tout que il faut débouler, il faut effectivement et merci enfin franchement moi je t'en ai là-dessus mais la conversation ça m'a aussi ouvert les yeux là-dessus sur le fait que précisément C'est la vocation de ces parties-là ou de ce milieu-là de couper court à la liberté d'expression, à ce qui pourrait être dit, à un discours contre, un discours effectivement émancipateur, à juste dire des choses. Et c'est vraiment le contrôle de la parole est extrêmement, extrêmement fort dans les parties. Mais la bonne nouvelle, et je termine là-dessus, c'est que c'est pas du tout dur de le contrer. Ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce que tu vas faire, quoi. Voilà, moi, c'est vraiment ce que je leur disais. Et alors, okay, c'est quoi la décision ? Et c'est toujours, mais je reciterai toujours éternellement cette phrase de Gisèle Halimi, qui, quand elle a été députée apparentée au groupe Parti Socialiste, tout le temps convoquée par Pierre Joxe, dès que ça n'allait pas, qu'elle avait dit un truc qu'il ne fallait pas sur le nucléaire, sur le féminisme, et qu'il disait « Non, mais là, je vais t'exclure », et qu'elle lui répétait tout le temps « Mais tu vas m'exclure de quoi ?» Et c'est exactement ça. Mais vous voulez faire quoi ? Vous allez m'exclure de quoi ? Donc à partir du moment où on n'est pas dans ce truc-là, dans un truc de carrière, c'est pas trop compliqué, en fait. C'est dur, mais c'est pas, ils peuvent pas grand-chose.
Oui, mais à l'inverse, tu vois, par exemple, quand t'es une ou un député non inscrit à l'Assemblée nationale, que t'es pas rattaché à un groupe, t'as beaucoup moins de possibilités d'action. Donc ça, c'est aussi un enjeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la structure institutionnelle de notre système politique implique le commun, en fait, et implique ce rôle des partis politiques. Donc tu peux t'en extraire et être éventuellement élu sans étiquette ou de manière indépendante, mais quand t'arrives à l'Assemblée nationale, tu fais quoi ?
Tu peux prendre au Conseil de Paris, Danielle Simonet, la seule députée LFI, elle fait beaucoup de bruit. On l'entend.
Oui, faire du bruit, mais...
Non, mais bien sûr, c'est ce que je disais, c'est la nécessité d'y aller en groupe, toujours d'y aller en groupe, c'est-à-dire que, et vraiment de prévoir le coup à l'avance et d'y aller ensemble. Et ça ne veut pas dire vachement, ça peut être aussi des petits groupes, hein, de 4-5 qui disent on y va, on s'y vient, et ça continue comme ça, mais c'est l'évidence, oui. Faut y aller en groupe.
Réjeanne, ton mot de la fin ?
Oui, alors je dirais que je reprendrai ce qu'a dit aussi Delora, cette idée que c'est insensé ce dont on discute. Et quand j'entends Alice sur le rapport au temps, on peut se dire qu'on est dans une période au temps où il y a un croisement de la fin du mois et de la fin du monde, de l'urgence écologique et sociale, de l'urgence d'enfin être en cohérence et quelle que soit notre identification sexuée, notre couleur de peau, notre origine, d'arriver à être reconnus comme des individus émancipés et à égalité. Il y a urgence de vivre tout ça. La pandémie nous a montré que c'était une urgence vitale qui dépassait les frontières, qu'elles soient nationales, entre humains, non humains, vivants, et que le rapport au commun, il devait être un rapport au commun lucide et pas mesquin, et que ça, c'était vital. Hein, c'est ce que nous a donné cette expérience-là. Et face à cette urgence, on se retrouve dans un temps qui est rythmé par les élections. Vous voyez la dimension insensée Voilà. Donc, c'est pour ça que notre discussion, elle est étrange, elle est inconfortable. Parce qu'il y a, c'est ce que tu disais, Dolores, quoi. On se retrouve dans quelque chose où on se demande le sens. Hein, c'est quoi la direction ? C'est Anna Arendt qui, la politique a-t-elle encore un sens ? Donc ça, c'est des écrits posthumes. Et vraiment, a-t-elle encore un sens ? Au sens de direction, au sens de signification ? Je pense que c'est ça qu'on est en train de se demander ce soir. Est-ce que essaye de porter au maximum les activistes ? Et tu as raison, hein, c'était pas une critique du tout de l'activisme, mais pas d'avoir d'angélisme non plus sur le fait que les activistes, ils sont pas hors rapport de pouvoir, ils sont pas hors stratégie, ils sont pas hors mesquinerie. Et pour autant, bien sûr, qu'ils sont essentiels au fait de porter du sens, la signification et de la direction. Donc voilà, je trouve que c'est, en tout cas, peut-être qu'il y a quelque chose d'assez contemporain, parce qu'on est toujours en train de se demander ce qui est nouveau, ce qui n'est pas nouveau, c'est le sentiment d'urgence. D'un sentiment d'urgence qu'on a vécu de manière existentielle dans nos corps, en particulier à travers la pandémie. Et face à ce sentiment d'urgence, on a un rythme qui est complètement décalé. Voilà. Donc moi, ce que j'ai vu chez les activistes, c'est que la réponse, c'est une réponse qui, à la fois, porte du temps long, qui font des recours juridiques. Je trouve que la jurisprudence du Conseil d'État, suite au recours de Cédric Héroux, qui reconnaît la fraternité comme un principe à valeur constitutionnelle, elle est belle, même si pour moi, ça ne serait pas fraternité qu'on devrait avoir, mais solidarité. Parce qu'elle permet concrètement, est-ce que tu disais, les idées c'est du concret, c'est de la vie, ça permet concrètement à ce que des actes de solidarité ne soient plus réprimés, hein, que vous puissiez plus faire de la prison, avoir des amendes parce que vous êtes solidaire avec quelqu'un qui n'est pas de la même nationalité que vous. Donc on voit là, à travers ces actes-là, que le droit, et sur l'affaire du siècle c'est pareil, c'est y a un investissement très fort des activistes sur le droit, donc qui demande quand même un peu plus de temps long, avec cette idée que ça porte de la norme qui est efficace. Donc voilà, donc le rapport au sens du politique, je crois qu'on est en plein dedans, et le rapport au temps, il est central. Mais quand je vois, moi, toute cette force de l'activisme, malgré la dimension insensée de ce à quoi il se confronte, je me dis que voilà, on avance, il y a une véritable direction.
Merci Réjeanne, et enfin Dolores.
Bah, c'est vrai qu'on a parlé des élections législatives plus du côté des politiques, des partis. Mais en fait, on parle, je trouve, assez peu des citoyennes et des citoyens qui sont pas forcément activistes ou militants. Parce que c'est vrai qu'ils représentent presque en soi un corps à côté des partis, etc. Mais je pense que c'est quand même... on parlait de qu'est-ce qui est contemporain, qu'est-ce qui est là. Moi, pour moi, ce qui joue, c'est aussi ça. C'est-à-dire, peut-être, est-ce que, avec tous les enjeux qui ont été posés, effectivement, il y a les gilets jaunes, là, il y a la guerre en Ukraine, on ne peut pas faire comme si elle ne nous impactait pas, même si, voilà, sachant qu'il y a d'autres guerres qui devaient nous impacter autant et qui ne nous ont jamais autant occupés et impactés. Il faudrait se questionner de pourquoi, mais on sait déjà la réponse. Mais en tout cas, peut-être que là, il y a une émergence aussi, en tout cas une réémergence, en tout cas j'espère et je pense que c'est à observer parmi notamment les médias, parce que j'observe avec peut-être que vous m'avez trouvé dur, mais je reste persuadée que c'est aussi leur rôle que de permettre à ça de en tout cas d'être vu et d'être de dire voilà que ça émerge, mais je pense que les citoyennes et les citoyens sont en fait les personnes qui sont en première ligne. On l'a vu, si personne ne vote, si personne ne fait advenir les mots magiques de il faut voter dans ces zones, enfin il faut vraiment rendre hommage à ces personnes qui ont permis même que la NUPES arrive. C'est parce qu'en fait il y a des personnes dans des endroits qui sont abandonnés en permanence qui ont voté, pas forcément en se disant qui votaient pour la personne ou la personne magique qui va changer leur vie, mais pour cette personne qui dit je vous entends et je vais faire en sorte de continuer de faire entendre votre parole. Et en fait, moi, je suis pas du tout macroniste en mode il n'y a pas d'intermédiaire et explosons tout ça, etc. Je pense au contraire que les citoyennes et les citoyens sont justement cette première ligne-là de nos vies politiques pour faire en sorte qu'on se rende compte que... on peut agir encore sur nos vies. Alors, je suis pas du tout pour le coup ni défaitiste, etc. On peut agir sur nos vies, c'est important de se le dire, de se le rappeler, mais que par contre il faut absolument saisir tous les moyens. Donc on parlait du droit pour des activistes, parce qu'il faut aussi avoir les moyens de comprendre comment ça fonctionne, etc., etc., mais de se rendre compte qu'il y a des moyens pour demander à nos représentations, je parlais tout à l'heure du jour 1, mais après le 12, après le 19, hein, surtout après le 19, à partir du 1er juillet, ils vont changer, ils vont nous annoncer des nouvelles mesures, etc. Mais comment en fait on regarde en fait le travail qui est fait en fait? Parce qu'en fait, il s'agit de notre représentation, donc c'est nos vies en fait qui sont impactées. Donc c'est-à-dire la question même du politique, comment les citoyennes et les citoyens qui ont été, la Réjeanne le rappelait, assez malmenés, etc. Les militants aussi qui font face au backlash, donc tous ces intermédiaires-là. Mais comment en fait les citoyennes et les citoyens, on s'empare en fait de ce qui nous est donné, parce qu'en fait, il s'agit de nous, de nos vies, du climat, de nos enfants, des crèches, etc., etc. Et de comment en fait on peut-être qu'il y a un jour 1 aussi là-dessus. Comment en fait peut-être les gens vont recréer des nouveaux espaces qu'on n'a plus. Enfin, en tout cas, je trouve, si on regarde les médias et effectivement certains groupements associatifs, on n'a plus forcément la possibilité de dire ce qui nous dérange, ce qu'on aimerait. Voilà, il y a la résurgence encore de ronds-points à quelques endroits, mais voilà, ça reste quand même une certaine forme. Comment en fait les personnes vont se réemparer en fait de cette de leur vie en fait, et du coup de cette parole, est-ce qu'ils vont la rendre publique, est-ce qu'ils vont la médiatiser, est-ce que voilà, ça moi c'est ça qui m'intéresse beaucoup, parce que je pense que c'est aussi là que va se jouer le rapport de force dont parlait Alice tout à l'heure, rééquilibré, c'est-à-dire à côté des associations, à côté des partis politiques, à côté aussi de tout ce qu'on voit aussi de l'étranger qui nous intéresse, qui nous fait peur, etc. Cet élément-là qui n'est pas manquant, qui est là, puisque c'est nous qui allons voter, etc. Mais comment on s'empare de ça pour rentrer aussi, re-rentrer dans ce rapport de force et faire en sorte, au lendemain des élections législatives, que la députation, en fait, nous aide vraiment à améliorer nos vies. Moi, c'est ça qui m'intéresse.
Bah, c'était un très beau mot de la fin. Merci, Dolores. Merci à toutes les trois. Merci. Merci à vous.
Merci, Léa.
Avec plaisir.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real, frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.